J'ai préféré essayer de montrer un peu les interfaces entre nos travaux de recherche et les demandes de gestion, parce que nous, on travaille sur les plantes aquatiques dans les milieux naturels en général, qu'elles soient indigènes ou exotiques. En fait, il s'avère que, comme je le disais tout à l'heure, on a l'habitude de fréquenter des plantes exotiques parce que, c'est vrai, il y en a quand même pas mal dans les milieux aquatiques. Donc je me suis dit, tiens, plutôt que de rentrer dans le détail de nos recherches, je vais plutôt présenter un panorama qui fait que depuis une trentaine d'années, dans l'équipe, on s'intéresse aux espèces exotiques. Et bien sûr, étant donné que même si la question se pose au niveau européen et au niveau national, c'est vrai qu'on a eu l'habitude de travailler, moi je vais prendre comme exemple ici la chaîne des lacs étangs aquitains, parce qu'on les connaît plutôt bien, donc qui s'étend de l'estuaire de la Gironde jusqu'à l'estuaire de la Dour, avec une quinzaine de lacs étangs de tailles différentes, etc., etc. Et cette chaîne est soumise à des introductions plus ou moins récentes d'espèces exotiques, alors vous verrez que moi je n'utilise pas le mot invasive, toute l'école, dire que voilà, y a des espèces, il y a certaines qui sont indigènes, d'autres exotiques, et puis parmi les exotiques, certaines ont un caractère envahissant, et d'autres, on les côtoie, elles sont là, de manière plus ou moins sporadique. Voilà. Bon, celles qu'on connaît bien, qu'on ne voit pas trop, qui sont originaires, qui ont été introduites pour des histoires d'aquariophilie, ce sont des espèces qui vivent strictement dans l'eau, qu'on ne voit pas forcément quand on est depuis le bord, hein. Si vous faites du bateau, par exemple, vous les verrez par contre souvent accrochés aux hélices du moteur. Donc, il s'agit des espèces, des hydrocaritacées, des plantes qui vivent dans l'eau, dont je l'ai dit, et qui avaient souvent été vendues par les jardineries comme étant des plantes oxygénatrices de l'eau. Et puis des plantes qui vivent à l'interface de l'eau et de la terre, vous connaissez bien la Jussie. Et une autre espèce, le myriophile du Brésil, Myriophyllum aquaticum. Voilà, donc ces espèces créent un certain nombre de nuisances pour les usages, pour le milieu et pour les espèces en présence, donc que ce soit les espèces indigènes, etc. La question qui s'est posée souvent, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces espèces une fois qu'elles sont sur place? La première chose, c'est ne rien faire, c'est pas forcément la pire, parce que des fois, faire quelque chose, ça peut avoir un impact très important, surtout quand c'est des plantes qui ont l'habitude de se reproduire par reproduction végétative, donc des boutures qui vont donner des herbiers, etc., etc. Soit parfois, effectivement, on peut arracher les plantes et les poser sur le bord, et puis en attendant de voir ce qui se passe, ça, c'est ce qui a été fait un peu au tout début. Plus récemment, on a compris que les plantes, il valait mieux les ramasser et ensuite même voir les valoriser. Donc là, ce que vous voyez, c'est un faucardeur, c'est un bateau faucardeur qui moissonne. Hein, donc on dit un moissonneur, maintenant on ne parle plus de faucardage. Et puis, bien sûr, la meilleure des solutions, enfin, c'est qui est la plus efficace, puis la plus coûteuse, chronophage, etc., c'est ramasser les plantes à la main. Vous imaginez un peu le travail. Donc ça va peut-être pour les interventions, en termes de, au tout début des invasions ou de colonisation du site par les plantes. Voilà, donc l'objectif un peu de la présentation, c'était de vous montrer un peu quelles sont les interfaces possibles entre la recherche et la gestion, parce que moi je ne travaillais pas à l'IRSTEA à l'époque, il s'appelait CEMAGREF. La première question dans les années 80, au début des années 80, c'est où sont les plantes et où appliquer les opérations de gestion, c'est-à-dire que des demandes directement liées aux interventions. Par exemple, les premières questions étaient posées par le syndicat mixte de Géolandes, donc dans le Conseil général des Landes. Et par exemple, ici, si je prends l'exemple de la Jussie sur l'étang de Garros, ça a été de préciser les secteurs où étaient installées les plantes. Donc ici, quand c'est vert, c'est pas beaucoup de plantes, et puis plus ça va vers le jaune, le rouge et le noir, c'est qu'il y en a beaucoup. Donc vous voyez qu'en 88, il n'y avait pas beaucoup de plantes. En 94, on voit sur les rives ouest des lacs, ça commence à être un peu plus colonisé. Et puis en 98, on se rend compte que les rives est ont été colonisées. Alors, il y a des petites flèches qui apparaissent. Voilà. Donc ça, c'était les premières questions qui nous ont été posées. Nous, ça nous a permis à la fois de connaître la répartition des plantes, mais aussi de pouvoir faire un premier tour des lacs et aussi de faire des inventaires des plantes indigènes, des plantes patrimoniales, parce que c'est vrai qu'on parlait de financement. C'est vrai que les financements pour étudier la répartition des plantes exotiques nous a permis de pouvoir faire aussi des inventaires de plantes indigènes et surtout des plantes patrimoniales. La deuxième question qui a été... Alors bon, ça, c'est des questions auxquelles on a essayé de répondre pendant une vingtaine d'années. Donc, les études un peu plus récentes, celle-ci, elle date de 2010. C'est quel est l'état des colonisations au large, donc les fameuses plantes qu'on ne voit pas. Nous, on a développé... Ça, c'est une demande plutôt liée à la gestion patrimoniale des plantes d'eau. C'est que dans les DOCOB Natura 2000, souvent, on nous demande effectivement où sont les plantes exotiques, mais où sont les plantes patrimoniales. Il y a des plantes patrimoniales dans les lacs qui poussent jusqu'à des profondeurs importantes, 3 à 4 mètres, voilà, des petites fougères, etc. On a développé une méthode, donc avec le financement de l'ONF, une méthode d'éco-sondage où on a fait des profils. Là, ici, c'est le lac de Lacanau. Donc les petits traits rouges, vous voyez, c'est donc les profils perpendiculaires qu'on a fait à l'aide d'un éco-sondeur. On a fait des enregistrements. Ici, ce que vous voyez, ce sont les plantes, les fameuses hydrocaritacées, nos fameuses plantes qui s'accrochent aux hélices du bateau, qui se développent. De temps en temps, on met un petit coup de râteau pour vérifier que c'est soit du lagarosiphon, soit de l'égéria. Et après, on produit des cartes comme ça. Donc ces cartes ici, quand c'est rouge, c'est un peu le même système que tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup de plantes, on les voit ici par exemple. Normalement, il y a des petites flèches qui arrivent aussi. Hop. Donc on voit que sur les rives ouest, elles sont plutôt développées, alors qu'en rive est, c'est plutôt jaune-vert. Donc, voilà. Donc il y a des processus dont je parlerai plus tard. La question, une fois qu'on a présenté, la question des gestionnaires, on va dire, qu'ils ont vu ces cartes, c'est « Ah oui, mais il y a des plantes, mais quelle est la biomasse ?» C'est vrai qu'on sait qu'elles sont présentes, mais quelle est la biomasse représentée par ces plantes ? Donc, là, c'est en l'occurrence des travaux plus récents, financés par l'agence d'Eure-Garonne. Donc on pratique le même protocole d'éco-sondage, sauf que là, les plantes, on en ramasse une certaine quantité qu'on passe à l'étuve et donc qu'on pèse. Et on fait les mêmes types de cartes, sauf que cette fois-ci, les couleurs correspondent à un poids sec. C'est intéressant parce que là, on voit par exemple dans les fameuses zones qui étaient colonisées, donc qui correspondent aux zones en vert, voilà, on arrive jusqu'à des poids secs dépassant le kilo par mètre carré de plantes, ce qui est quand même assez important pour ce type de plantes. Vous imaginez que, par exemple, ces hydrocaritacées sont composées d'à 90% d'eau, donc ça fait quand même un certain volume sur site. Voilà, toujours les flèches qui apparaissent. Hop. La question qui vient ensuite, c'est quel impact sur le fonctionnement des lacs, notamment sur les aspects chimiques. Parce que d'habitude, nous, on travaille beaucoup en bioindication, on développe des indicateurs d'état écologique des lacs basés sur les communautés de plantes. Quel est l'impact de ces plantes sur l'état chimique ? Donc, on a travaillé sur... il y avait Christine Haribaudot qui, lors du dernier séminaire, qui était venue présenter ses travaux. Donc carrément faire des prélèvements au sein des herbiers pour voir effectivement les variations, notamment au niveau de l'oxygénation. L'oxygénation, c'est vraiment important dans les processus biogéochimiques parce que c'est ce qui va influencer tous les systèmes de minéralisation des sédiments, parce que bon, les bactéries et les bestioles qui vivent dans le sédiment qui minéralisent la matière organique meurent quand il n'y a plus d'oxygène, parce que bon, les plantes, elles consomment de l'oxygène également la nuit, vous le savez, elles ne font pas que produire de l'oxygène, et aussi des problèmes de relargage dus à ces périodes d'hypoxie, de relargage du sédiment. Voilà, donc ça, le but, c'était un peu d'inventorier, d'identifier les zones à risque d'hypoxie dans les lacs. Donc je ne vous montrerai pas le tableau, le graphique. Si vous avez des questions, tout à l'heure, je vous en poserai. Et donc là, après, je vais parler de l'impact de l'hydromorphologie. Alors pourquoi l'hydromorphologie ? Je vous ai parlé tout à l'heure d'impact sur la chimie. Et c'est vrai que nous, dans les travaux de la directive cadre européenne, les travaux de bioindication, on s'est intéressé beaucoup au niveau trophique des lacs, mais on ne s'est pas intéressé trop en France à l'hydromorphologie. Alors c'est vrai que les macrophytes, les plantes aquatiques ont quelque chose à nous dire sur l'état physique des lacs. Donc on s'est intéressé récemment par exemple à l'impact du vent. Donc le vent ici sur les lacs qui sont proches de l'océan, vous voyez ici une carte qui a été produite à partir d'un indice de perturbation de Keddy. Keddy, bon, c'est la référence. Et là c'est un peu pareil. Tout ce qui est en rouge, c'est les zones qui sont fortement exposées au vent sur des vents annuels. Et ce qui est en blanc, c'est plutôt les zones qui sont protégées, au pied des dunes. Et là, par exemple, vous voyez ici, toujours nos secteurs qui étaient en rouge tout à l'heure au niveau de la présence, on se rend compte qu'effectivement, si on prend une photo aérienne, ce que vous voyez ici, les petites vagues, là, c'est ce qu'on appelle... Des fois, c'est du frisbee, c'est des toutes petites vagues, des fois, c'est des vraies vagues qui peuvent faire 30-40 cm. On se rend compte que ben là, donc, ces vagues-là ont un impact sur une certaine zone du plan d'eau. Mais les endroits où les vagues n'ont pas d'influence, et bien c'est là où on va retrouver nos fameuses plantes vraiment en masse, vraiment importantes, des biomasses importantes de nos fameuses plantes exotiques. Voilà. Donc dans le même ordre, donc toujours pareil des aspects bioindication et aussi étude des relations du paramètre physique sur les communautés. On a étudié, donc je vous dis, quand on fait par exemple le tour des lacs, les inventaires, on étudie toutes les plantes, on a fait des certains nombres d'analyses qui font qu'on se rend compte que certaines plantes forment des assemblages, qui ont donc ici vous pouvez voir une carte, on a trois groupes, le groupe bleu, le groupe rouge et le groupe vert. On se rend compte que le groupe vert est constitué principalement par les espèces exotiques. Voilà, donc ça c'est intéressant. Quand on applique la fameuse carte des vents, on se rend compte qu'effectivement nos groupes verts sont dans les zones un peu plus épargnées par le processus d'hydrodynamisme et des vagues. Et si à côté de ça, on rajoute des prélèvements de sédiments où on a pu faire évaluer le pourcentage de matière organique, on se rend compte que les plantes, elles ont l'habitude de venir s'installer dans les endroits où justement elles sont connues pour pouvoir faire des développements importants, c'est-à-dire les endroits où les sédiments sont fluides et très organiques. Alors tout ça, c'est intéressant, ça paraît évident, mais en fait tout ça, ça permet de justifier, de conforter certain nombre de connaissances qu'on a sur les plantes. On parlait de traits tout à l'heure, on parlait de plasticité, etc. On sait que certaines plantes ne vont pas se développer forcément sur les rivestes des lacs. C'est le cas pour tous les lacs. Là, j'ai pris le modèle des lacs aquitains, mais sur substrat sableux, c'est un peu plus compliqué, etc., etc. Et ça, c'est très intéressant parce que la question qui vient, c'est plutôt quelle place vont prendre les espèces exotiques dans l'évaluation de l'état écologique. Une fois qu'on a l'état, c'est une question qui se pose au niveau européen, qu'elle n'a pas répondu, parce que certaines espèces sont exotiques en France et pas forcément dans notre pays et vice-versa. Donc c'est intéressant, c'est comment évaluer l'état écologique quand il y a ces plantes-là. Est-ce que ces plantes ont une question, est-ce que ces organismes, bien sûr, une question qui se pose pour tous les maillons biologiques et tous les milieux, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces plantes-là en termes d'évaluation, en termes de bioindication. Voilà. Et je finis sur quelque chose de très général, toujours les flèches. Voilà, donc c'est ce que je disais, c'est des questions qui se posent au niveau des espèces exotiques et indigènes, parce qu'on fait aussi il y a aussi des proliférations de plantes indigènes. Donc, par exemple, en plantes aquatiques, on connaît un certain nombre de plantes, comme les lentilles d'eau, le cératophile, certains myriophiles, qui créent des vrais problèmes de colonisation des sites. Voilà, j'ai quelques exemples, mais là, c'est pas la question. C'était juste pour conclure, donc pour dire que j'espère que vous aurez compris au travers de ma présentation que les questions de gestion alimentaire continuent les travaux de recherche, que la recherche tend, si possible, à améliorer les pratiques de gestion, mais que bon, il y a différentes échelles, effectivement c'est compliqué, les rythmes de déroulement et les délais sont hétérogènes, c'est-à-dire que les questions des gestionnaires, c'est Annabelle Porté qui en parlait, c'est vrai, les questions c'est très... il faut apporter une réponse rapide. On a un problème avec les plantes, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, c'est vrai que nous, dans nos recherches, il faut développer des protocoles, on étudie ça souvent sur 2-3 ans, on fait des triplicas, etc. Donc, c'est vraiment pas du tout en phase. Et bien sûr, nous, on a du mal à... Vous avez vu tout à l'heure, on s'est plutôt concentré sur certaines parties du lac, même si on essaie d'extrapoler, mais on n'a pas les moyens pour pouvoir travailler partout. Alors que la question du gestionnaire, elle est qu'est-ce que vous m'apportez comme solution à l'échelle des... Alors, dans un premier temps, à l'échelle des lacs aquitains, on va dire, mais les questions nous arrivent aussi au niveau national, par l'intermédiaire de certains groupes, mais aussi au niveau européen, notamment au travers de certaines directives européennes. Donc, je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup.